Vous êtes à l'écoute d'Alger Chaîne 3. Tout de suite, je vous retrouve pour un nouveau numéro de l'Histoire en Marche.
I am your voice.
Manantum. Manantum.
Nous sommes deux vieilles nations dans le monde.
Le Royaume-Uni et la France.
لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء
بالدم
تكون لعنة عليكم
نبديك يا أقصى
إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها
بيوتكم في انتظاركم مساجدكم في انتظاركم كنائسكم في انتظاركم وهم لكم ولأولادكم.
L'Histoire en Marche est une émission réalisée par Jalil Lakhdar, coordonnée par Samih Hahali. Marim Abdou pour vous accompagner au micro. L'entité d'occupation a lancé un plan qualifié de majeur. Il s'agit pour cette dernière de doubler sa population et notamment celle des colonies avec pour objectif 100 000 colons supplémentaires et développer les infrastructures qui vont avec. Cet expansionnisme se manifeste actuellement dans le Golan, annexé à la Syrie en 1967, stratégique pour l'eau et la sécurité avec des plans pour y doubler la population de colons et y renforcer sa présence. Au Liban, pays voisin, les affrontements persistants le long de la frontière suite à l'accord de cessez-le-feu de fin 2025 en sont une illustration parfaite. L'entité tente de modifier la géographie de la Cisjordanie, s'empare des terres palestiniennes et les réaffecte à la colonisation. Tout cela fait partie d'un projet visant à remodeler la géographie et la démographie, mais aussi d'expulser toute présence palestinienne des terres palestiniennes et particulièrement d'El-Quds. En 2013 déjà, le président de la Knesset, Moshe Feiglin, expliquait clairement ou annonçait clairement les desseins du sionisme.
Cet endroit est aux Juifs, uniquement aux Juifs. C'est à nous, pas seulement parce que nous étions là ou que nous l'avons reçu. C'est à nous parce que depuis ce lieu, nous devons accomplir notre mission dans le monde. Dès qu'il y aura une direction juive sûre d'elle-même, qui comprendra quel est ce lieu et à qui il appartient, et quelle est sa signification, les musulmans s'en iront en paix et dans le calme. Cela m'est très clair, même si cela ne paraît pas être le cas aujourd'hui.
Le nettoyage ethnique de la Palestine est indissociable du projet sioniste, une colonisation de peuplement qui vise à remplacer la population locale par des juifs venus d'ailleurs. C'est l'essence même du sionisme. Avec nous en ligne pour en parler, Monsieur Gérard Haddad, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes essayiste, auteur de l'ouvrage « Archéologie du sionisme ». Monsieur Gérard Haddad, vous expliquez que c'est la violence exercée sur Reza et plus largement sur les Palestiniens qui vous a fait comprendre ce qu'est le sionisme. Ils ont construit une boîte vide, dites-vous, dont les parois sont faites de violence.
Moi, je suis un ancien sioniste et j'ai même vécu 3 années en Israël par sionisme. Si on est sioniste, on va en Israël. Voilà. Petit à petit, moi, au départ, il y a deux façons de voir. Il y a celle que j'avais avant et celle à laquelle je suis arrivé, parce que c'est l'affaire de Gaza qui a été un événement tellement important que des masques sont tombés. Et moi-même, c'est l'affaire de Gaza qui m'a fait tomber mes illusions, mes dernières illusions sur ce que pouvait être le sionisme. En fait, cette idéologie qui nous apparaît aujourd'hui avec son vrai visage, parce qu'on ne voulait pas le voir aussi, oui, est apparue vers la fin du 19e siècle. Avant ça, les Juifs, pour eux, Jérusalem, par exemple, était la ville sainte. On avait envie de la visiter, de faire un pèlerinage. Mais la majorité des Juifs n'avaient aucune envie d'aller vivre en Palestine. C'est à la fin du 19e siècle que va se produire cet événement, création très bizarre, d'une idéologie qu'on va appeler le sionisme. Le mot sionisme n'existait pas avant, hein. Prenons le cas du plus grand maître du judaïsme, qui s'appelait Ibn Maymoun, l'ami de Salah ad-Din, qui a été...
Salah ad-Din al-Ayyoubi.
Oui. Il a été à Jérusalem, il a passé 8 jours, mais il n'a pas voulu rester, il a été vivre au Caire.
Qu'est-ce qui vous a guéri? On va revenir sur cet aspect des choses, mais qu'est-ce qui vous a guéri du sionisme, monsieur Gérard Haddad? Vous dites avoir été sioniste, mais vous avez été guéri du sionisme.
Pour moi, le sionisme, c'est politique de la violence, ce qu'on appelle le storytelling. Les sionistes sont très forts dans la fabrication d'histoires. Mm-hmm. Par exemple, aujourd'hui, ils vous racontent que Israël est le pays qui a été créé par les survivants d'Auschwitz, de la Shoah.
Oui.
C'est une blague, parce que le sionisme avait détesté les survivants quand ils sont arrivés. Ils les ont fait venir parce qu'ils étaient en 1900. Moi, j'ai examiné tout ça. En 1945, il y avait environ 500 000 personnes d'origine juive. Et 1,5 million ou même plus de Palestiniens.
Oui.
Pour moi, j'étais très marqué par cette histoire qu'on m'avait racontée.
C'est-à-dire que les rescapés d'Auschwitz faisaient partie d'un plan que l'on pourrait considérer comme une sorte de plan pour le peuplement de la Palestine.
Oui, chercher de toute façon de la population. Ils ont été jusqu'à mettre des bombes dans les synagogues, par exemple. L'affaire est maintenant documentée, prouvée, il n'y a pas de doute, reconnue même par les Israéliens, à Bagdad, en Irak, où il y avait une communauté juive. Et on a mis des bombes dans les synagogues pour leur faire peur en disant que c'était un attentat. Ils ont fait la même chose en Égypte, ce qu'on appelait l'affaire Lavon. J'ai appris qu'au Maroc aussi, on mettait des tracts sous les portes des maisons juives en leur disant « Demain, il va y avoir un pogrom. Fuyez, il y a un camion qui vous attend qui va vous permettre de vous évader. » Il fallait absolument tout de suite ramener de la population. Du Yémen aussi, le Yémen, le tapis volant, à qui on a fait faire des tas de choses épouvantables. On leur a pris, dans certains cas, des bébés. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Il fallait absolument remplir. Et quand les Juifs sont arrivés, pendant les Juifs du Maroc, c'était très nombreux, ils étaient reçus comme des chiens. C'était quoi? C'était des Juifs arabes. C'est quoi cette cuisine? D'ailleurs, moi, j'ai publié un livre d'un quelqu'un qui était le patron de l'institution juive. Il s'appelle Karl Blumenfeld, qui a dit, quand je vois ces gens, mais quel rapport j'ai avec eux? Et puis, on peut dire à l'inverse, quel rapport moi j'ai avec ces gens-là? Hein, bon. C'est une histoire tragique, épouvantable, aujourd'hui qui gangrène, on peut dire, tout le Moyen-Orient et même le monde entier.
Monsieur Gérard Haddad, vous expliquez en ce sens que le génocide du peuple palestinien, génocide est un terme que vous utilisez d'ailleurs.
Quand même, si ça c'est pas un génocide, je trouve que même le mot est un peu faible, c'est une extermination qu'ils veulent faire.
Vous dites que le génocide du peuple palestinien est pire peut-être que ce que les nazis ont fait.
C'est en tous les cas, nous avons atteint des limites de la barbarie. Cette petite fille qu'on a tuée avec 350 balles dans sa voiture, une petite fille qui était merveilleuse, la façon dont elle parle, cet enfant qui dit carrément, eh ben, j'ai compris, je vais mourir là. Un enfant de 6 ans. Et j'ai pas le cœur brisé par ça. Mais je suis plus un être humain, alors. C'est quoi ça? On a voulu que les gens meurent de faim. À Auschwitz, on leur donnait des bouts de pain, mais ils étaient pourris, mais on leur donnait un bout de pain, hein. Il n'y avait pas d'eau à Gaza. À Auschwitz, il y avait des douches.
Quand on atteint ce degré de barbarie, et quand est mis en avant constamment ce sentiment de victimologie ou de victime, la comparaison s'impose par elle-même, monsieur Gérard Haddad.
C'est le coup de génie, ce qu'on appelle la Hasbara. La Hasbara, vous savez ce que c'est la propagande israélienne. Elle est d'une puissance extraordinaire. Vous n'avez pas idée de la puissance de la propagande de la Hasbara. Mais cette histoire d'inversion des rôles a été remarquée par des gens tout à fait remarquables, comme un journaliste qui s'appelle Gideon Levy, qui dit quand même ils sont forts, ce gouvernement, ils ont réussi, alors qu'ils sont les agresseurs, à se faire prendre pour les agresser. Vous savez, le monde juif aujourd'hui est brisé en deux. La majorité, malheureusement, elle est sioniste. Mais il y a une forte minorité qui ne l'est pas. Par exemple, à New York, le maire de New York, qui est musulman, qui est un homme de grande qualité, il a été élu aussi grâce aux voix juives. Un tiers au moins des juifs de New York, qui est une des plus grandes villes juives du monde, hein, quand même. Plus d'un tiers des juifs de New York ont voté pour lui. Par antisionisme. Si vous voulez, depuis quelques années, moi, depuis ma rencontre avec les Bobis, je me suis rapproché du monde arabe, dont je suis originaire. Ce qui me plaît dans le mouvement palestinien, c'est que malgré ce qu'on leur fait, je n'entends pas de discours antisémite, anti-juif. J'aime pas ce mot antisémite qui veut rien dire.
Monsieur Gérard Haddad, peut-être que c'est un langage qui n'est pas perçu par aujourd'hui les personnes qui dirigent ce qui est qualifié d'Israël. Monsieur Gérard Haddad, vous savez...
Ah non, il n'est pas du tout audible.
Oui, il n'est pas du tout audible.
Personne qui dit un discours comme le mien
oui.
est un traître.
Exactement. D'ailleurs, nous allons y revenir, si vous le permettez, dans quelques minutes. Vous avez expliqué qu'en parlant d'idéal principal, vous avez dit « L'idéal principal des Israéliens, et là je vous cite, c'est l'armée ». Et tout est organisé autour de l'armée, en parlant de la militarisation de toute la société israélienne, disiez-vous, monsieur Gérard Haddad.
Moi, j'ai vécu donc en Israël. Qu'est-ce que j'ai fait en Israël? J'étais médecin. J'étais dans un hôpital psychiatrique. Et le directeur d'hôpital était général. D'accord?
Oui.
Le médecin-chef était colonel. Même des institutions comme celle-là, sanitaire, si vous n'aviez pas des hautes fonctions dans l'armée, vous ne faisiez pas carrière. Moi, je pense que la lutte, elle doit se faire contre l'idéologie sioniste.
C'est une idéologie aujourd'hui soutenue par des puissances mondiales.
Pourquoi? C'est la grande question.
Pourquoi est-ce qu'on les soutient autant?
Ça commence à avoir quelques nuances. Mais bon, quand même, elle est soutenue par l'Occident.
Oui.
30% de l'armement israélien est allemand.
Oui.
La majorité est américaine. Pourquoi est-ce que l'impérialisme, il faut l'appeler par son nom,
soutient le sionisme?
Il ne soutient pas. Il agit, il fait agir, c'est lui. Il tombait plus de bombes à Gaza que pendant toute la guerre mondiale, sur un territoire ridicule de superficie.
Pourquoi est-ce que l'Occident fait-il agir le sionisme?
Parce qu'ils veulent contrôler le monde. Vous savez, il y a un grand penseur palestinien que j'ai découvert récemment qui s'appelle Edouard Saïd. Ce grand problème de la domination de la planète entière, le colonialisme a colonisé le monde entier.
Oui.
Il y a eu, je crois, un pays ou deux qui n'ont pas été colonisés. C'est le Japon. Mais le monde entier a été colonisé, la Chine a été colonisée.
En quoi est-ce que Reza, en l'occurrence, pourrait bloquer le contrôle du monde?
On veut faire une épuration ethnique. On veut supprimer la population palestinienne.
Oui.
Aussi bien à Gaza que en Cisjordanie.
Oui.
Où il y a une situation épouvantable. Il y a des pogroms. Aujourd'hui, il y a des pogroms. Ils sont recensés. C'est pas des inventions de pro-palestiniens. Il suffit de lire un journal israélien comme Haaretz. On voit des pogroms. On va dans les villages arabes. On brûle les voitures. On tue des enfants. C'est à devenir fou, cette histoire. Mais d'ailleurs, ils sont fous.
Et l'extermination de tout ce qui est palestinien, l'extermination de
ça
tout ce qui...
Ça n'existait pas pour eux.
Et l'extermination de tout ce qui est musulman, peut-être, monsieur Gérard Haddad, ceci.
Il n'en parlait pas de ça.
Il n'en parlait pas, mais est-ce le cas aujourd'hui?
Aujourd'hui, oui, c'est le cas, en tout cas, des Palestiniens.
D'accord.
Pas de tous les musulmans, puisqu'ils sont très amis avec les pays du Golfe, etc. Hein. Enfin,
oui.
Très amis, j'en sais rien.
Mais le sionisme est expansionniste.
Non,
mais le sionisme est expansionniste.
Ah oui.
Donc aujourd'hui, pas les autres pays arabes. Demain, cela sera. D'ailleurs, vous le dites dans l'un de vos entretiens, dans l'une de vos entrevues, vous dites « Israël est devenu fou, il bombarde tout le monde, la Syrie, le Liban, le Yémen, les Palestiniens. »
D'abord les Palestiniens.
D'abord les Palestiniens et tout le temps les Palestiniens. Ils ont peut-être toujours été fous. Ils ont peut-être toujours eu ce plan de route ou cette feuille de route.
C'est ce que j'ai mis dans mon livre, c'est ce que
c'est
j'ai appelé la conclusion.
C'est ça.
Les germes du sionisme, c'est une folie. Mais la folie, elle a besoin d'un certain temps pour s'exprimer. Avant, elle était latente, elle est maintenant officielle.
Vous expliquez comment est-ce que les grandes organisations juives en France, à l'instar du CRIF peut-être, largement alignées sur le sionisme d'État, sont devenues des moteurs de la montée de l'antisémitisme. Vous le dites, et vous dites également que le sionisme s'est créé sur un rejet, le rejet radical du judaïsme. Mais sans doute, faut-il rajouter que le sionisme s'est créé sur le rejet radical aussi de l'islam, monsieur Gérard Haddad?
Le sionisme a été porté, encouragé, nourri par le christianisme, en particulier par le protestantisme. Le fameux Balfour était un protestant virulent. Hein. Le président à ce moment-là du gouvernement anglais, c'était monsieur George Lloyd, était aussi tenait à ce courant sioniste chrétien. Les sionistes chrétiens sont très bien. Alors moi aujourd'hui par exemple, je ne suis pas un juif athée. Mais j'ai une certaine relation, elle est ce qu'elle est, mais bon, j'allais à la synagogue tous les samedis par exemple. Le rabbin m'a appelé, pourquoi vous ne venez plus? Je lui ai dit, je ne peux pas prier dans une synagogue sioniste. Je ne peux pas prier dans une synagogue où à la fin de l'office, on fait la bénédiction de l'État d'Israël. Alors si vous supprimez ça, moi je retourne. Évidemment, c'est impossible.
Est-ce que vous avez été menacé?
J'ai été insulté. Vous savez, moi je suis, comme on dit, à mon âge, je crains plus rien. Je ne sais pas si vous savez mon âge, je suis un vieux. Bien que je sois très actif, je suis en train de terminer un livre. Mais je suis insulté. On me dit « traître », etc. Je dis « c'est une fierté d'être traître, puisque j'ai écrit un livre, moi, la fierté des traîtres ». Bon, mais par exemple, ma famille, avec ma famille, ça va pas du tout. J'ai perdu mes amis, et par exemple, tous ces gens qui sont les Antoven, les Caroline Forest et autres qui défendent la politique israélienne, ils savent rien de l'hébreu. Ils ont aucune culture juive. Moi, j'ai étudié mes textes. Je connais le Talmud. Je connais la Torah. J'ai fait des bouquins là-dessus. Ça m'amuserait d'avoir un débat avec eux pour leur demander la nullité. Ils défendent le peuple juif, mais non, ils le coulent. Ce sont les ennemis du peuple juif, c'est pas du tout des amis.
Et quand vous les entendez dire que, je les cite, Israël a le droit de se défendre.
C'est un scandale absolu. La première fois que je l'ai entendu cette phrase, c'était en 1982, au moment de l'affaire Paix en Galilée, où oui. Israël envahit le Liban. C'est une folie de dire ça. Et les Gazaouis n'ont rien, ils ont quelques trucs qu'ils fabriquent eux-mêmes sans doute. Et là-dessus, ils affrontent l'armement le plus puissant du monde, les avions les plus perfectionnés, les services de renseignement les plus perfectionnés, les tanks, les bateaux de guerre, tout. Et eux, ils n'ont rien. Et c'est ça qui est admirable chez eux. Il y a une image, je voudrais terminer quand même là-dessus, la semaine dernière, je reçois quand même, comme tout le monde, des vidéos.
Oui.
J'ai reçu une vidéo, l'université de Gaza rouvre ses portes. C'est dingue. Et dans le local, je voyais le professeur qui faisait un cours, et ça s'appelle l'Université islamique de Gaza.
Oui.
Vous êtes au courant, j'imagine. Et j'ai vu, c'est avec une loupe, j'ai regardé ce que le professeur écrivait au tableau. J'ai dit, est-ce que c'est un cours de Coran? Eh ben non. Il avait marqué les symboles de métaux, cuivre, zinc. Donc c'était un cours de chimie qu'il faisait. Aujourd'hui, malgré toutes les horreurs et tout ça, Gaza est debout, il y a des universités qui fonctionnent, des enfants vont à l'école. Vous savez que le niveau des Gazaouis était un niveau culturel très élevé.
Absolument.
Science, par exemple.
Absolument.
Ils avaient des tas d'hôpitaux. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Monsieur Oberlin, qui est un professeur de médecine.
Que l'on va retrouver dans quelques instants, oui.
Ah bon, d'accord. Oui. Eh ben, lui, il a vécu à Gaza, il connaît. Il a vu ses universités, ses écoles de médecine qui existent là-bas, tout ça. Il m'a dit, c'est des gens formidables. Et il m'a dit, qu'est-ce que c'est que Gaza? C'est une prison à ciel ouvert. Ça pouvait pas continuer. Ça fait 17 ans que les Gazaouis vivaient en prison. Non.
Une prison à ciel ouvert, mais je ne sais pas trop s'ils n'ont rien. Ils ont la force de leur foi, monsieur Gérard Wahaded. Ils croient en leur combat.
Et c'est sans doute. Ils croient en leur combat.
Et c'est sans doute suffisant.
Nous aussi, on croit en leur combat. Moi, je pense qu'ils gagneront. Ils ont déjà gagné. Aujourd'hui, Gaza est devenu le symbole de l'humanité. Le Gazaoui, c'est l'être humain par excellence aujourd'hui. Donc, c'est quand même une victoire déjà. Cette énergie du Gazaoui, cette énergie du peuple palestinien, sous tous ses courants, est extraordinaire, fait l'admiration du monde entier. C'est quand même, c'est la victoire. Et ça finira par s'imposer.
Si l'on vous demandait de choisir, vous choisiriez de devenir Razaoui, palestinien Razaoui?
En tout cas, je peux vous dire que vous savez, récemment, il y a un jeune Palestinien qui est venu me voir pour lui demander droit d'asile et je lui ai fait un certificat pour le soutenir. Je lui ai dit, vous savez, mon certificat, il n'est pas gratuit. Il m'a dit, qu'est-ce que je vous dois? Je lui ai dit, un verre de thé quand je viendrai visiter vos parents parce qu'ils sont vivants. Visiter vos parents à Gaza, il faudra qu'ils m'offrent un verre de thé ou peut-être même deux.
Vous ne répondez pas à ma question, monsieur Gérard Haddad.
Bah, si je vais à Gaza, c'est quoi?
Vous accepteriez de devenir palestinien Razaoui?
Bien sûr, et je ne suis pas le seul. Hein. Regardez, il y a des courants. Il y a un rabbin là, à New York, il a dit, nous sommes des Palestiniens. Autrefois, nous étions déjà des Palestiniens. Il y avait des Palestiniens juifs, des Palestiniens musulmans, des Palestiniens chrétiens. On n'en veut plus de ce régime abrutissant, criminel, sioniste. Oui, éventuellement, dans cette nouvelle Palestine, où tout le monde aurait les mêmes droits et les mêmes devoirs, je crois que je serais vraiment ravi d'aller finir mes jours.
Monsieur Gérard Haddad, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur Haddad.
Je vous en prie. Merci à vous.
Merci. Gérard Haddad est essayiste, auteur de l'ouvrage « Archéologie du sionisme ».
Il y a eu des cas où on a tiré sur des Palestiniens, vu des cadavres, frappé, giflé des Palestiniens quand ils étaient amenés à la base. Et je pourrais continuer. Mais en fait, ces moments où on entrait dans les maisons de gens en pleine nuit, en leur prenant leur dignité, ce sont ceux-là qui m'ont vraiment affecté. On lâche des tonnes de bombes sur des maisons et on tue des familles entières.
L'été dernier, après la guerre à Gaza, les soldats ont commencé à venir nous trouver pour nous raconter ce qui s'était passé, nous parler des règles de l'engagement, des ordres sur la façon de faire feu sur les gens, sur les civils, sur tous ceux qui se trouvaient là. Et les soldats ont commencé à nous en parler. Et nous avons écouté des choses auxquelles nous n'avions jamais été exposés. Les ordres qu'ils ont reçus étaient très simples. Il n'y avait pas de civils dans la bande de Gaza lorsqu'on y combattait. Un petit exemple peut-être, des soldats de bataillons armés nous ont dit qu'ils avaient reçu des ordres de la part d'officiers disant que s'ils voyaient une personne autour d'eux, dans un rayon de 300 à 500 mètres, à l'endroit où ils étaient positionnés, ils avaient le droit de tirer pour tuer. C'est devenu, en des termes amusants que les soldats eux-mêmes nous ont livrés, comme en jeu vidéo.
Clair, utilisons des appellations communes pour éviter toute confusion. Israël est une entité dirigée par des assassins, des tueurs d'enfants, des brigands, agissant en dehors de toute morale, foulant aux pieds toutes les règles, sans aucune intention de paix, assumant ces assassinats, dont le premier, celui du médiateur de l'ONU pour la Palestine, le comte Folke Bernadotte. C'était le 17 septembre 1948 à El Rotz que cette entité organisait son assassinat. Les forces d'occupation agitent leur unité d'Ovdivan, spécialisée dans la réalisation des tâches dites spéciales. Les éléments de cette unité travaillent au sein des agglomérations palestiniennes, raison pour laquelle ils doivent avoir des traits orientaux pour qu'ils n'éveillent pas les soupçons à leur égard lorsqu'ils se déguisent pour accomplir les tâches qui leur sont assignées. L'unité d'Ovdivan a souvent recours à des experts de maquillage et de déguisement qui travaillent 24 heures sur 24 avec les éléments de cette formation fondée par Ehud Barak en 1987. La plupart des assassinats ayant ciblé des cadres de l'intifada palestinienne ont été perpétrés par des éléments de l'unité d'Ovdivan. Avec nous pour en parler, Monsieur Jean-Paul Chagnolo. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes professeur émérite des universités, spécialiste des questions palestiniennes, directeur de la revue Confluence méditerranéenne. Monsieur Jean-Paul Chagnolo, dans l'un de vos articles intitulé « Les assassinats ciblés ou comment détruire un processus politique », vous expliquez, et là je vous lis, « Israël dispose de services spéciaux très structurés, expérimentés, le Mossad pour les actions extérieures et le Shabak pour l'intérieur et les territoires occupés. Ces derniers identifient la personne, autant dire que cette pratique est carrément institutionnalisé.
Cet article dont vous parlez, il analysait une situation qui avait lieu essentiellement à l'époque de l'intifada,
oui,
où il y a eu effectivement une politique systématique d'assassinat ciblé avec des contradictions politiques importantes, parce que finalement, loin de pouvoir casser toute forme d'engagement, ça a bien souvent eu l'effet contraire. Il y a eu, au contraire, davantage de mobilisation face à cela.
Votre article, faut-il le préciser, date de 2013, monsieur Chagnolo. Vous expliquez qu'en quelques années, le Shabak va faire assassiner près de 300 personnes.
C'était vraiment l'idée de casser le mouvement de résistance qu'il y avait à ce moment-là dans les territoires occupés. Je pense que c'était pas du tout comme la première intifada. Là, il s'agissait d'une véritable intifada armée. Cette intifada a fait des milliers de morts. Il y a eu près de 4000 morts du côté palestinien et environ un millier du côté israélien. Donc c'était vraiment quelque chose d'extrêmement dur. Et dans ce cadre-là, eh bien, il s'agissait d'assassiner, il n'y a pas d'autre terme, hein, j'insiste sur ce sujet-là, assassiner les militants les plus engagés et les leaders les plus engagés. Il y a eu quelques exceptions, il y a eu des leaders qui n'ont pas été assassinés, je pense notamment à Marwan Barghouti.
Oui.
Ils ont choisi de le prendre, c'était en 2002, et de le mettre en prison. Il est toujours en prison aujourd'hui, il est à perpétuité s'il n'y a pas des bouleversements politiques.
Il y a eu également des tentatives d'assassinat ratées, telles que la tentative d'assassinat de Khaled Mash'al.
Alors là, c'est antérieur. Effectivement, là, c'était à l'étranger. C'était une situation où, effectivement, le Mossad a manqué son affaire, ou plutôt, il a réussi. Mais comme ça se passait à l'étranger, en Jordanie en l'occurrence, il y a eu un bras de fer diplomatique pour qu'immédiatement, on puisse soigner Meshal, qui avait été empoisonné.
Et donc, c'est ça.
Et ça a été réglé sur le plan politique. C'était pas raté, mais ça a été, en fait, contré par la position très ferme qu'a eu à ce moment-là la Jordanie, quand ça s'est passé en Jordanie.
Vous évoquez aussi, Monsieur Chagnolo, vous évoquez Yahya Ayesh, un des chefs militaires du Hamas, assassiné le 5 janvier 1996 par une mini-bombe placée dans son téléphone portable, expliquant en filigrane qu'il s'agit d'une volonté délibérée de stopper les processus politiques engagés.
Vous voyez, c'est très important quand on parle d'assassinat ciblé, c'est de recontextualiser. Et c'est important de donner l'année, comme vous venez de faire à l'instant, 1996, c'est-à-dire à un moment où c'était quelques mois après l'assassinat de Rabin en novembre 1995, assassinat par un Israélien extrémiste, a ouvert une période d'incertitude. Et là, les Israéliens ont décidé de mettre un terme à un processus et donc de faire de la provocation. Ça a été une provocation, incontestablement.
Il y a eu également d'autres assassinats. Vous citez Raad Karmi, tué le 14 janvier 2002. Là encore, vous expliquez le choix du moment qui, écriviez-vous, était déterminant, puisqu'un mois plus tôt, Yasser Arafat, précisez-vous, avait annoncé sa volonté d'instaurer un cessez-le-feu. Vous précisez que le Shaba, qui n'avait pas réussi une première fois à éliminer Karmi, est revenu à la charge pour convaincre Ariel Sharon de le faire exécuter.
Il faut bien comprendre aussi que la décision d'assassiner est une décision politique la plupart du temps quand il s'agit de personnages importants, ce qui est le cas aujourd'hui. Et donc il y a forcément des options politiques différentes, mais à mon sens, l'assassinat ciblé, la plupart du temps, ne freine en aucun cas un mouvement de cette ampleur. Je crois que les forces politiques en Israël, qui étaient sous l'égide de Sharon et globalement de la droite et de l'extrême droite,
comme
ne voulait plus d'Oslo. C'est ça l'idée fondamentale à partir de 2001-2002. Il ne voulait plus d'Oslo. Il disait même que Oslo n'était pas la solution, mais le problème. Et si on revient, si vous me permettez un instant, sur l'Algérie,
oui.
La France a commis des assassinats ciblés de grands leaders algériens. Ce sont des hommes qui auraient pu, évidemment, être des interlocuteurs politiques de grande importance. Et on a choisi délibérément de les assassiner. On pense qu'en supprimant les hommes qui se dressent contre une oppression, on pense qu'on va pouvoir casser un mouvement. Au pire, on gagne un peu de temps, mais finalement, on en perd beaucoup. Alors, en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, les gens qui voulaient, notamment au Hamas, assumer une résistance,
oui.
Mais qui étaient aussi capables de faire des ouvertures politiques, et bien on les a supprimés. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une impasse totale 20 ans plus tard. Il n'y a jamais eu autant de colonisation et aussi de morts, parce que là, on parle d'assassinats ciblés, c'est-à-dire qu'on vise un certain nombre de responsables politiques, de militants politiques, de cadres, globalement. Il y a eu des dizaines et des dizaines de Palestiniens qui ont été tués par l'armée israélienne. Ce ne sont pas des assassinats ciblés, ce sont des assassinats tout court contre ceux qui se lèvent contre une occupation et une colonisation.
Merci infiniment, Monsieur Jean-Paul Chagnolo, d'avoir été avec nous.
Au revoir.
Au revoir. Jean-Paul Chagnolo est professeur émérite des universités, spécialiste de la question palestinienne, directeur de la revue Confluence méditerranéenne.
أنتم الذين صرعتم حقوق الإنسان وأنتم الذين شكلتم الأمم المتحدة وأنتم الذين شكلتم مجلس الأمن وأنتم الذين وضعتم كل القوانين الإنسانية بعد أن حطمتم الإنسان لكم دينكم ولي دين لكم أرضكم ولي أرضي لكم وطنكم ولي وطني لكم علمكم ولي علمي
هذه أرضنا ولا يزال أرضنا ولو دمرونا وقتلونا حتضل أرضنا دولة إسرائيل انتهبت أراضينا وأخذت مالنا وأخذت حالنا وما خلتش ولا حاجة إلنا انت حطيت مليون كيلو متفجرات على مربع أصغر مربع في العالم 350 كيلو متر غزة كلها كل غزة من السلك للسلك 350 كيلو متر مليون كيلو متفجرات حطيت فيها طائرات استطلاع دبابات عمليات إنزال طائرات F-16 وزن القنبلة الواحدة طن ونص على البيت
ولسان شعبي يقول إني أتبعثر حبات من قمح تنبت في هذه الأرض سنابل وأعيش ألملم كل جياع الأرض وأجعل من عود القمح مقاتل.
La chambre d'appel de la Cour pénale internationale a rejeté lundi les arguments de l'entité selon lesquels l'enquête sur les crimes commis à Reza après le 7 octobre 2023 était invalide. Cette décision constitue une avancée significative dans l'enquête sur la Palestine qui a conduit à la délivrance de mandats d'arrêt contre Netanyahou et son ancien ministre de la guerre, Yoav Gallant, en novembre dernier. Karim Khan, le procureur de la Cour en faisait l'annonce.
Je peux également confirmer aujourd'hui que j'ai des motifs raisonnables de croire, sur la base des éléments de preuve recueillis et examinés par mon bureau, que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et le ministre de la Défense, Yoav Gallant, portent la responsabilité pénale des crimes internationaux suivants commis sur le territoire de l'État de Palestine depuis au moins le 8 octobre 2023.
En ce sens, il eut de nombreux recours pour tenter d'invalider ses mandats, notamment en tentant de récuser le procureur général de la Cour, Karim Khan, pour manque d'impartialité présumée en contestant la compétence de la Cour en Palestine. L'enquête de la Cour pénale internationale sur les crimes de guerre commis par ce qui est qualifié d'Israël a conduit les États-Unis à imposer des sanctions à l'encontre du procureur général de la Cour, de ses deux adjoints et des juges qui ont délivré des mandats en novembre dernier. Avec nous en ligne, professeur Christophe Oberlin, merci d'être avec nous et d'accepter notre invitation. Vous êtes chirurgien humanitaire, vous vous êtes rendu plus d'une fois à Reza, auteur de l'ouvrage « Chemin de la Cour, les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale, enquête ». Professeur Christophe Oberlin, je le disais, le procureur général de la Cour pénale internationale a révélé dans une note officielle que la Grande-Bretagne a menacé de suspendre son financement à la Cour et de se retirer du statut de Rome si la procédure d'émission des mandats d'arrêt contre Netanyahou se poursuivait. Comment réagissez-vous à cette démarche ?
Écoutez, d'abord sur mes références, j'ai écrit avec maître Gilles Devers deux livres, l'un en 2014, Le chemin de la Cour, et l'autre en 2022, Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale. On peut observer dans ces deux livres que tout ce qui avait été prévu par maître Gilles Devers et contre lequel beaucoup s'élevaient en disant « ça n'arrivera jamais, il n'y aura jamais d'enquête approfondie, il n'y aura jamais de mandat d'arrêt », eh bien tout ce qui avait été prévu s'est passé. Autrement dit, il y a un certain nombre de choses qui ne se sont pas passées. Et en particulier, eh bien, les attaques contre la procédure, contre la Cour pénale internationale, eh bien, sont restées vaines. Mmh. Au début, les Israéliens n'ont même pas envoyé leurs avocats à la Cour pénale. Ensuite, ils y sont allés avec une certaine arrogance en disant, on n'y va pas pour se défendre, mais on y va pour faire connaître notre point de vue. Et puis, force est de constater que l'étau se resserre, qu'une certaine panique, eh bien, apparaît. Et à ce moment-là, on fait jouer les atouts. Et c'est là, je dirais, où on entre dans l'ignominie, parce que les atouts, ce sont des pays comme les États-Unis, on ne peut pas s'en étonner, ils ne sont pas partis à la Cour pénale internationale,
oui.
Mais c'est aussi la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et donc, l'affaire dont vous parlez maintenant est une affaire relativement ancienne, mais qui, disons, remonte à la surface maintenant. Dès que les mandats d'arrêt se sont profilés, et avant même qu'ils soient émis, ben, des pressions intolérables avec des menaces contre les personnes, les menaces contre les comptes en banque, et surtout cette affaire de Karim Khan,
oui,
qui a été révélée chronologiquement par le Wall Street Journal, après qu'il ait refusé de faire machine arrière sur les mandats d'arrêt qu'il avait demandé auprès de la Cour. Donc on voit qu'il y a une chronologie dans cette affaire qui est très en faveur du procureur, et on peut noter également que la plaignante, entre guillemets, ou la victime, n'a jamais porté plainte, et notamment a refusé de s'exprimer devant la cellule chargée des problèmes de malversation sexuelle, oui, comme il y en a maintenant dans toutes les grandes entreprises, elle a refusé de s'exprimer. Autrement dit, il n'y a rien de pénal dans cette affaire et il n'y a même pas de plainte qui a été décelée, si vous voulez. Mm-hmm. Donc, cette affaire de suppression de financement, c'est cousu de fil blanc et surtout, ça fait partie de ce que nous avons vu avec Gilles Devers pendant des années, c'est-à-dire des choses qui n'arriveront pas. La Cour pénale internationale ne va pas exploser sur un coup de fil de M. Trump ou de M. Cameron s'il s'agit de lui.
Les décisions de la Cour pénale internationale sur Gaza sont freinées par des décisions politiques, comme vous l'indiquez à l'instant, professeur Christophe Oberlin. Ce sont des pressions politiques intenses, des États-Unis notamment, de la France, incluant des menaces de sanctions, des campagnes d'intimidation, etc. Jusqu'à quel degré ces ingérences paralysent-elles les enquêtes menées ?
Écoutez, d'après mes sources, que je ne citerai pas, eh bien, ça ne paralyse pas la menée des enquêtes. Les travaux continuent, certaines audiences ont déjà eu lieu, d'autres mandats d'arrêt sont prêts et pourraient sortir d'un moment à l'autre, mais disons que le bureau du procureur travaille un petit peu comme à l'époque de la grande Fatou Bensouda, c'est-à-dire dans une grande discrétion, de façon à essayer de ne pas lever de polémique, de ne pas cibler tel ou tel membre du bureau. Donc, ceci tranche un petit peu avec la méthode de Karim Khan, qui s'était laissé aller à beaucoup de médiatisation,
oui,
sans grand, je dirais avec quelques erreurs majeures, en tout cas inutiles.
Oui.
Et disons qu'en ce moment, le bureau de travail, c'est un bureau de professionnels. Et ceci a été rappelé d'ailleurs par la présidente de la Cour pénale internationale, Madame Tomoko Akane, très récemment. Ses propos étaient extrêmement fermes et extrêmement précis contre toutes ces pressions, toutes ces menaces. Et elle a remercié à cette occasion d'ailleurs quelque chose qui m'a frappé, c'est-à-dire les pays qui n'ont rien dit et qui ont apporté leur soutien de manière discrète, c'est-à-dire qui n'ont pas fait de publicité, tant on sait qu'une quelconque publicité peut lever des sanctions américaines très rapidement. Donc je crois que oui, les fonctionnaires de la Cour pénale serrent les coudes et que le travail continue.
Alors je vous pose la question, professeur Christophe Oberlin, car les services de renseignement agissent également. Le Shin Bet, Aman, Unité 8200 ont harcelé le personnel de la Cour pénale internationale, y compris l'ex-procureur Fatou Bensouda, pour faire en sorte que l'enquête sur la Palestine soit stoppée. Cela renseigne sur la possibilité, effectivement, et la capacité de la justice internationale de venir à terme d'une procédure judiciaire. Parlons ici d'une guerre de l'ombre sur 10 ans. Écoute, intimidation physique, menaces personnelles. Donc ce sont des pressions multiples qui sont exercées, professeur Christophe Oberlin.
Écoutez, ce sont des pressions qui sont prévues dans l'excellent statut de Rome. Je crois me souvenir que c'est l'article 70, c'est-à-dire que tous les auteurs de ces pressions, et qui pour une part sont des personnes publiques qui sont connues, eh bien peuvent tomber sous le coup de la loi internationale. Autrement dit, il y a des réserves de ce côté-là, et je pense que l'état d'excitation du côté israélien montre bien à quel point cette cour associée à la Cour internationale de justice constitue une menace réelle. Donc ce n'est pas parce que tel ou tel fait des demandes totalement inacceptables que cela va se passer. Et on a eu un exemple ces jours-ci avec l'arrêt de la chambre d'appel.
Oui, alors qu'est-ce qui est aujourd'hui attendu de la Cour pénale internationale et de quel appui a besoin la Cour dans les conditions actuelles ?
Écoutez, je dirais qu'elle a besoin que certains pays, et j'ai parlé tout à l'heure de la France, de l'Allemagne et le Royaume-Uni, cessent le double discours. Quand Monsieur Barrot, par exemple, pour parler du cas français, communique sur le fait que la France est très attachée au droit international et en même temps participe de l'impunité de Monsieur Netanyahou en lui accordant une immunité, ce qui est totalement illégal,
oui,
et illicite en même temps, il faudrait surtout que ces pays-là, qui pèsent assez lourd, l'Europe, c'est 40% du budget de la Cour pénale internationale. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont des grands pays européens. Et donc, ils ne peuvent pas continuer à se mettre dans l'illégalité. Et d'ailleurs, des procédures ont déjà commencé contre certains de ses dirigeants. Donc je crois qu'il faudrait qu'ils se rendent compte que eux aussi sont menacés au titre de complices.
Alors, la Cour fonctionne via ses juges, via les procédures engagées. En juin 2025, les États-Unis ont sanctionné 4 juges pour avoir autorisé les mandats contre Netanyahou et Gallant, bloquant leurs biens et comptes. Est-ce que des contre-mesures juridiques peuvent être prises en ce sens, professeur Christophe Oberlin? L'avez-vous constaté? L'avez-vous demandé? Qu'est-ce qui est fait en ce sens pour que cela cesse? Parce que par ailleurs, 2 mois plus tard, en août 2025, des sanctions ont visé également 6 juges et 3 procureurs, dont Karim Khan, sous décret 14-203 pour transgression contre les États-Unis et Israël. Comment réagissez-vous à tout cela?
Écoutez, je crois que, en dehors du cas que j'ai cité tout à l'heure, des 3 pays européens qui sont sortis du droit et qui prétendent y rester, et qui sont partis à la Cour pénale internationale, les États-Unis ne sont pas partis à la Cour pénale internationale. Oui. Et il faut reconnaître qu'en ce moment, le dirigeant de la planète, l'un des plus puissants, sans doute pas le plus puissant, d'ailleurs, entre parenthèses, fait des sorties de route en permanence. Alors, le grand malheur pour les Palestiniens, c'est que, eh bien, la garantie de cesser le feu, qui nécessite donc une puissance militaire, est justement la garantie américaine qu'il faut rechercher, car pour l'instant, il n'y en a pas d'autre. Donc, je crois que ceci augure, mais à l'échelle d'années, voire d'une décennie, peut-être même davantage, d'une modification des rapports de force au niveau planétaire. Et il y aura d'autres pays, eh bien, qui seront capables de faire par dissuasion liée à leur capacité militaire ou autre, eh bien, faire respecter le droit international. Mais il y a une convergence vers le respect nécessaire du droit international que réclament d'ailleurs les Palestiniens.
La CPI serait tributaire d'une modification des rapports de force internationaux, des rapports de force politiques ou géopolitiques internationaux aujourd'hui?
La CPI dit le droit, le véritable droit, et on sait que dans des États démocratiques, eh bien, pour faire respecter le droit, malheureusement, il faut qu'elle s'appuie sur une puissante police ou une puissance militaire, que n'a absolument pas la Cour pénale internationale, que n'aura sans doute pas avant très longtemps et peut-être jamais l'Organisation des Nations Unies. Et donc, il faut se reposer sur des puissances militaires régionales qui, d'une certaine façon, eh bien, assurent la sécurité des biens et des personnes dans un territoire donné. Et donc, il faut bien reconnaître que cette enclave occidentale au Proche-Orient, qui est en guerre avec tous les pays qui l'entourent, eh bien, cette enclave, un jour, devra se démilitariser, ou en tout cas se placer sous la protection d'une puissance plus raisonnable que la puissance israélienne.
À partir de 2014, de très nombreux dossiers, 2014, ça va faire tout de même 11 ans, professeur Christophe Oberlin, de très nombreux dossiers de victimes palestiniennes ont été envoyés à la Cour pénale internationale. Des plaintes documentées et rédigées par du personnel qualifié et formé selon les standards internationaux. N'est-ce pas suffisant, professeur Christophe Oberlin? Quelle est la démarche supplémentaire qui manque aujourd'hui ou qu'il va falloir rajouter aujourd'hui au-delà de ce que vous nous disiez à l'instant, une force pour faire appliquer le droit et l'esprit du droit?
Écoutez, avant l'application, le respect de tout cela par la force, d'abord je vous remercie de citer ces Palestiniens qui depuis des années ont acquis une capacité juridique, ont déposé toute une série de plaintes à la Cour pénale internationale, et en particulier d'ailleurs en dehors des plaintes privées qui sont par exemple les plaintes des marches du retour, plus de 3000, les avocats du Hamas ont déposé des plaintes. Et donc il y a des signes objectifs que depuis des années, le principal mouvement actuellement de libération nationale palestinien, sollicite la Cour pénale internationale et entend bien y aller en défendant ses points de vue et en défendant ses actions, en étant bien conscient que des crimes de guerre ont été commis par toutes les parties, y compris d'ailleurs l'autorité palestinienne, comme le rappelait Fatou Bensouda. Donc il y a un consensus pour aller à la Cour pénale internationale, mm-hmm. et quelles que soient les factions palestiniennes.
Je rajoute ceci, le Hamas s'adresse à la Cour pénale internationale en dépit du fait que la Cour internationale ait diligenté un mandat d'arrêt contre l'un de ses dirigeants.
Alors là, c'est disons que là on va parler des morts et donc des procédures qui sont stoppées nécessairement.
Oui.
Je dois dire que les mandats d'arrêt qui ont été émis
contre Deif en l'occurrence,
pour certains étaient discutables. Et je pense en particulier contre Ismaël Haniyeh.
Oui.
Ismaël Haniyeh aurait eu une défense assez facile à la Cour pénale internationale en tant que dirigeant de la branche politique. Il aurait été extrêmement difficile de prouver qu'il avait donné des ordres tels ou tels de viol massif, etc. Donc ça aurait certainement posé problème, car son implication dans des meurtres de masse aurait été difficile à prouver.
Mm-hmm.
Pour le reste, il s'agit de dirigeants de branches militaires. Mohamed Deif,
oui.
On peut remarquer que, par exemple, pour les trois mouvements de libération nationale qui existent en Palestine, le FPLP, le Fatah et les principaux mouvements et le Hamas, eh bien, les Européens, le Conseil européen, le Conseil des ministres, a trois classements différents. Il y en a l'un sans faire les détails. Le Fatah, c'est uniquement la branche militaire. Le FPLP, curieusement, c'est uniquement la branche politique. Le Hamas, c'est les deux. Mais il y a un quatrième classement qui est très important et qui montre bien l'incohérence européenne, c'est le classement du Hezbollah. Le Hezbollah, sa branche militaire est classée terroriste, mais pas la branche politique. Alors, bien entendu, on va dire à juste titre, bah oui, le Hezbollah, il a une action politique, il a des députés au Parlement libanais, il a même des ministres, mais c'est en même temps exactement la position du Hamas, la
Absolument.
Situation du Hamas,
Absolument.
Et qui en plus a remporté les élections avec une majorité absolue de sièges.
Observé par
dit, le classement.
Oui, j'allais rajouter des élections, oui. observées par des observateurs européens lors de ces
voilà,
élections.
Voilà, indispensables internationaux et indiscutables. Autrement dit, c'est le classement de la branche politique du Hamas sur la liste des organisations terroristes. D'abord, elle n'a pas force de loi, c'est un classement politique. Et deuxièmement, une fois de plus, la diplomatie européenne s'est mise dans une situation impossible, puisque pour sortir, ne serait-ce que la branche politique du Hamas de la liste des organisations terroristes, eh bien, il faudrait que l'État qui a demandé l'inscription en fasse la demande, et surtout avoir l'unanimité des 28 pays européens. Quand on voit la disparité entre l'Espagne, dont le chef du gouvernement, dont tous les ministres appuient sans réserve les Palestiniens, quand on voit l'Irlande qui est sur la même ligne, et la France qui organise l'impunité de Monsieur Netanyahou, on voit donc qu'il n'y aura jamais d'unanimité des 28. Autrement dit, la diplomatie européenne s'est mise elle-même dans une situation impossible.
C'est le politique, au final, subjectif, par ailleurs, qui fragilise le droit dans ces conditions, professeur Christophe Oberlin.
C'est le politique, et en tant que Français, je suis particulièrement concerné par ce mépris du droit international qu'apprendre à nos étudiants, qu'apprendre à nos enfants, qu'apprendre à nos citoyens, si au plus haut sommet de l'État, alors qu'un génocide est en cours, eh bien, on continue à expliquer qu'il ne faut pas appliquer le mandat d'arrêt qui a été émis envers Monsieur Netanyahou. On se met dans une situation impossible, et j'espère de tout mon cœur que ceci n'entraînera pas de débordement. Car on met le peuple, on met la population dans une situation clairement impossible à tenir.
Professeur Christophe Oberlin, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, professeur.
Merci à vous et à une autre fois.
Inch'Allah, merci. Christophe Oberlin est chirurgien humanitaire, auteur de l'ouvrage intitulé « Le chemin de la cour, les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale, enquête ». Ont participé à ce programme Gérard Haddad, essayiste, auteur de l'ouvrage Archéologie du sionisme. Jean-Paul Chagnolot, professeur émérite des universités, directeur de la revue Confluence méditerranéenne. Christophe Oberlin, chirurgien humanitaire, auteur de l'ouvrage « Au chemin de la cour, les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale, enquête ». L'histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Haheli. Marim Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 17h. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.